Merci de m'avoir proposé de venir discuter avec vous. C'est la première fois en fait que j'ai l'occasion de venir discuter avec des gens qui sont, disons, dans l'univers des études postcoloniales. Je suis très content, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Alors, je dis ça aussi pour dire que je suis d'une très grande ignorance sur ces questions. Notamment d'histoire coloniale, d'histoire des plantations. Donc, vous m'avez demandé de contribuer avec vous en fait à poser les termes du débat. En fait, j'ai posé ces termes dans une modalité beaucoup plus théorique que vous ne l'avez fait. Donc, du coup, beaucoup plus pauvre aussi, hein, historiquement, en termes d'exemples, de matière empirique. Bon, c'est pas une tâche évidente d'avoir à poser les termes du débat, parce qu'après tout, c'est ma manière de poser ces termes. Je ne prête aucune valeur générale ou dogmatique, donc c'est évidemment à discuter. Moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est en fait la façon dont l'introduction du concept d'anthropocène dans les sciences sociales, il y a une quinzaine d'années, a correspondu en fait à l'émergence d'un nouvel espace de controverse à l'intérieur des sciences sociales et entre les sciences sociales et les sciences naturelles au sens très large, géophysique, les sciences communes du système Terre. C'est-à-dire comment l'introduction de ce concept a mis à l'épreuve certaines structures épistémologiques dont on dispose pour penser notre histoire, pour penser la façon dont les relations entre le naturel et le social se croisent dans cette histoire et les scansions historiques, les événements qui ponctuent cette histoire. Alors j'avais prévu d'examiner trois aspects de ces controverses. En fait, je vais m'en tenir à deux. Je pense que ça suffira. La première, en fait, était une controverse, disons, spécifiquement interne au champ des sciences sociales. Mais je crois qu'elle est moins directement liée aux discussions que vous vouliez avoir aujourd'hui, donc je peux la laisser de côté. Et puis en fait, je peux tout simplement vous renvoyer à un texte qui vient de paraître dans le dernier numéro de la revue des Annales, qui s'appelle Généalogie de l'Anthropocène, et où j'explique cet aspect-là des controverses générées par l'Anthropocène sur le statut des pensées du risque et des pensées des limites métaboliques. Donc ça, je laisse de côté. Je vais m'en tenir à deux autres points théoriques, en fait deux autres espaces de controverse. Le premier étant lié, on peut dire, à la rivalité entre un idéal épistémologique de naturalisation de l'histoire environnementale contre un idéal, au contraire, d'historicisation, de dénaturalisation de cette même histoire. Le deuxième point étant en fait celui qui donne le titre que j'avais donné pour l'intervention, qui porte sur, disons, les rapports entre ces débats sur l'Anthropocène et les crises un petit peu plus anciennes qui ont affecté, disons, le paradigme universaliste du rationalisme moderne. Donc c'est dans ces deux espaces-là que je voudrais inscrire la réflexion sur l'Anthropocène. Bon, alors, comme vous l'avez fait à l'instant, je ne reviens pas sur les la façon dont ce concept a été construit, comment il est apparu, quels ont été ses acteurs, vous l'avez très bien fait. Je pense seulement qu'on peut rappeler dans cet ordre d'idées que ce concept a été conçu, alors probablement maladroitement, mais a été néanmoins conçu comme un concept qui voulait signifier à la fois une alerte et une responsabilisation, c'est-à-dire anthropocène. Dans la mesure où une nouvelle période géologique se signale non pas par le fait que l'homme est la force d'évolution géologique majeure, mais par le fait que l'homme est une des forces géologiques repérables, prend immédiatement la forme d'une alerte, c'est-à-dire la divergence qu'introduit l'agentivité humaine dans le cours de l'histoire géologique est une divergence qu'on ne sait pas contrôler, qu'on ne sait pas maîtriser, qui a une dimension catastrophique dans le sens où elle introduit des réactions en chaîne, notamment l'élévation des températures moyennes, qui ne sont pas sous le contrôle de nos propres processus industriels, économiques, technologiques. C'est, je crois, disons, L'un des paradoxes principaux hein, qu'induit le concept d'anthropocène, c'est qu'il provoque à la fois un effet de fascination. Je reprends un terme qu'avait utilisé Jean-Baptiste dans une de ses interventions récemment, parce que c'est un concept qui a la dimension du sublime, hein, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là que ça a été interprété par certains auteurs, ça donne une dimension quasiment divine à l'homme, et en même temps, ce sublime ou cette dimension divine de l'homme lui est immédiatement retirée, parce que ce caractère grandiose de l'anthropocène, c'est un grandiose négatif, c'est un grandiose malheureux, parce qu'on ne sait pas le contrôler, on ne sait pas en être véritablement les maîtres. Donc c'est un concept d'alerte, c'est un concept de responsabilisation, et en même temps, un concept dont on a pu voir des effets de fatalisation, ou même de défaitisme intellectuel. C'est en ce sens que ce concept a servi d'appui, de socle à des débats qui, en fait, ont assez vite dépassé le simple problème de périodisation géologique ou d'études stratigraphiques sur hein, les Golden Spike ou ce genre de débats qui n'ont pas réellement pénétré les sciences sociales. Puisque, par exemple, quelle que soit la décision finale de la Commission internationale de stratigraphie sur la datation de l'Anthropocène, ça ne nous empêche pas d'avoir des débats sur la révolution industrielle, sur le système de plantation, sur les révolutions néolithiques ou autres marqueurs historiques. C'est pas du tout, ça exerce, je pense, pas du tout une contrainte épistémologique sur nous, les décisions des géologues. Bon. Donc, je prendrai Anthropocène non pas comme un strict concept géologique, mais en fait comme un espace de controverse à l'intérieur duquel on trouve des historiens, des économistes, des philosophes, etc. Alors, donc maintenant j'en viens au contenu proprement parlé de ce que je voulais vous dire, et je commence par le premier type de controverse que je voulais faire ressortir. Je crois que une partie de ce qui se joue dans les discussions qui ont eu lieu autour de l'Anthropocène est liée au problème assez général qui est celui de l'autorité scientifique. En fait, plus exactement, des rapports entre autorité scientifique et autorité politique. Au fond, les représentants des sciences géophysiques, des sciences du système Terre, en définissant Anthropocène et en définissant sa périodisation, son origine, ses mécanismes, ont essayé de faire ce qu'on pourrait appeler une sorte d'OPA, hein, en quelque sorte, sur un problème qui, par ailleurs, avait aussi une dimension d'analyse socio-historique. Donc, en réalité, dans les premiers textes consacrés à cette notion, je crois qu'il faut voir, enfin, on ne se trompe pas en y voyant une critique des sciences sociales. Alors, par exemple, parmi les premiers textes qui ont été consacrés du côté des sciences sociales à ces questions, Dipesh Chakrabarty a très bien vu cette dimension de critique des sciences sociales produite par le discours de l'Anthropocène, mais il l'a vu sur un mode très singulier, puisque cette critique, il l'a prise pour lui, hein, il l'a en quelque sorte intégrée, il l'a acceptée, en disant, au fond, la structuration épistémologique de l'histoire, et d'ailleurs notamment de l'histoire coloniale ou postcoloniale, comme lui la pratiquait, est ridiculisée par ce que nous apprennent les géosciences. Et donc, les analyses, à la fois dans leur échelle historique et dans le type de concept qu'elles mobilisent, eh bien justement, colonie, post-colonie, les concepts de classe, les concepts en fait des sciences économiques, sont ridiculisés, sont rendus obsolètes, non pertinents, par ce que nous apprennent les géosciences. Et donc, il faut, en quelque sorte, changer de braquet, si on veut rester pertinent à l'âge de l'Anthropocène, et se donner un nouveau cadre d'analyse qui, si on suit en tout cas ce premier texte de Chakrabarty sur la question, est, on peut dire, très largement renaturalisé. Bon. Donc au fond, un historien s'adresse lui-même la critique formulée par les géosciences et, on peut dire, mène une critique de l'épistémologie standard des sciences historiques et économiques et politiques. face à ce type de réaction, on a eu des réponses, des objections, notamment, par exemple, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je vais passer par là aussi, le texte qu'on écrit ensemble en 2014, Andreas Malm et Alf Hornborg, qui s'appelle « The Geology of Mankind », ce texte, il y a d'assez nombreux textes qui ont fait des opérations critiques du même type, mais celui-ci est très clair et très net, donc on peut le reprendre. Ce texte consiste à montrer qu'en réalité, on ne peut pas accepter le discours de l'Anthropocène comme critique des sciences sociales, parce que ces disciplines, l'histoire, l'anthropologie notamment, puisque c'est la discipline de ces deux auteurs, en fait, dispose déjà des instruments capables de rendre compte d'un bouleversement géophysique systémique, parce que ce bouleversement, il s'inscrit toujours, sans qu'il ne produise une rupture épistémologique majeure, dans l'histoire de la domination humaine de la nature, par la technique, par le capital, en réalité par l'association de la technique et du capital, et que ce bouleversement doit être envoyé à des asymétries à la fois géographiques, entre nord-sud, et sociologiques, entre classes. Donc ce texte était une façon, à mon sens, parfaitement juste de réaffirmer que les sciences sociales ne sont pas totalement désemparées devant les phénomènes massifs, disons du changement climatique, des bouleversements éco-évolutifs planétaires. Je crois que c'était aussi une façon de mettre à distance le discours politique qui était contenu de manière plus ou moins explicite dans le récit de l'Anthropocène tel qu'il a été monté par les sciences du système Terre. Ça consistait à dire que face à un événement géophysique, la réponse doit être d'essence technologique, voire technocratique. C'est-à-dire que l'autorité scientifique qui a réussi à identifier le phénomène, eh bien, entraîne avec elle une autorité politique, c'est-à-dire on sait en même temps d'où doit venir la réponse à ce type de problème. Du côté des sciences sociales critiques, au fond, le même mécanisme épistémologique a été activé, hein, puisqu'en disant que l'Anthropocène c'était essentiellement analysable en termes d'antagonisme socio-économique et de trajectoire historique de la modernisation, cela permettait en même temps de réaffirmer la légitimité des luttes, notamment des luttes pour la justice environnementale, qui est l'autre grand modèle de mobilisation sociopolitique en face des régulations, disons, technocratiques. Alors, d'une certaine manière, ce qui a résulté de ce premier niveau des discussions, assez bizarrement, c'est une forme de statu quo épistémologique. C'est-à-dire que, d'un côté comme de l'autre, chaque grand massif épistémologique affirme ou trouve dans le problème de l'Anthropocène l'occasion de réaffirmer ses idéaux épistémologiques qui étaient déjà très bien constitués antérieurement. C'est-à-dire que dans les disciplines naturalisantes, on réaffirme la force du discours de naturalisation. Et du côté des disciplines dénaturalisantes ou historicisantes, eh bien, on réaffirme à l'occasion de la même controverse la légitimité, on peut dire le savoir-faire, de pratiques critiques, épistémologiques et critiques, elles aussi déjà constituées. C'est peut-être le premier point, disons, de perplexité qu'on pourrait soulever quand on discute de ces questions. Alors pourquoi cette situation ? Je crois que si le débat s'est structuré de cette manière-là, c'est tout simplement, et en fait, je l'ai déjà un petit peu dit, parce que le concept d'anthropocène touche à un point central, on peut dire, du pluralisme épistémologique moderne, à l'intérieur duquel l'idéal de naturalisation et l'idéal de dénaturalisation ou d'historisation, en fait, depuis longtemps, fonctionnent très bien, l'un parallèlement à l'autre, l'un à côté de l'autre, sans s'imposer l'un à l'autre des limites ou des critiques qui sont définitives, qui sont de nature à défaire chacun des deux paradigmes. D'un côté, il n'y a pas de problème à considérer l'homme en tant qu'espèce comme une variable parmi d'autres dans un système évolutif, physique, chimique, biologique. Raison pour laquelle c'est toujours un petit peu compliqué de dire, par exemple, je reprends la citation que vous avez donnée tout à l'heure d'Haraway, hein, quand ils disent « The contemporary world is not a human species act », on comprend très bien ce qu'elle veut dire par là, et en même temps, il y a quand même un risque épistémologique majeur qui consiste à ne pas vouloir entendre qu'il y a des disciplines qui sont parfaitement légitimes, qui résonnent en termes de construction de niches, de dynamique éco-évolutive, et que de ce point de vue-là, il ne fait absolument aucun doute que c'est bien l'espèce humaine et pas l'espèce d'autres espèces, qui est identifiée comme un facteur spécifique de transformation des équilibres éco-évolutifs. En face de ça, évidemment, il faut tenir compte de la spécificité des organisations socio-historiques, c'est-à-dire en fait faire varier à l'intérieur de ce récit explicatif-là, on peut dire une responsabilisation différenciée des formes d'organisation sociale qui sont le socle de cette divergence dans les dynamiques éco-évolutives planétaires. Autrement dit, on va les ramener à des modes de développement spécifiques, des modes de production qu'on va appeler capitalisme ou organisation marchande ou système des plantations, qu'on va lier à des institutions comme le crédit, à des formes d'organisation territoriale comme la polarisation entre centre et périphérie, etc., etc. Autrement dit, l'anthropocène est une notion qui, je crois, révèle un trouble épistémologique très profond, en fait très ancien, hein, qui est indissociable de la constitution des grands massifs épistémologiques modernes, au moins au XIXe, voire au XVIIIe siècle. Constitue une mise à l'épreuve de notre capacité à rendre compte dans un langage scientifique unifié et autant que possible pacifié d'une série d'événements massifs. Alors c'est d'autant plus étonnant et intéressant que ces débats sur l'anthropocène sont intervenus à un moment de l'histoire des sciences où les sciences sociales elles-mêmes s'étaient déjà en quelque sorte fait l'objection qu'elles ne rendaient pas adéquatement compte de la centralité des rapports entre nature et société à l'intérieur des dynamiques historiques elles-mêmes. Hein, autrement dit, ces débats sont intervenus au moment où une série de mouvements de réformes épistémologiques cherchaient déjà, en fait, à évacuer le plus possible le caractère structurant du partage entre nature et société. Ça a été fait par très nombreuses traditions, j'en reviens pas, parmi lesquelles d'ailleurs les études postcoloniales, mais aussi l'histoire et la sociologie des sciences, l'anthropologie, etc., etc. Donc avec l'anthropocène, je crois qu'on a assisté en fait à une accélération, à une dramatisation de ce mouvement qui, là encore, en a révélé les tensions internes. Si l'agentivité humaine et l'agentivité non humaine sont au fond de même ordre et qu'elles se confondent tendanciellement dans la modernité tardive, je crois qu'on n'en est pas moins déstabilisé parce qu'il reste une différence énorme entre un paradigme qui produit l'unification entre ces deux types d'agentivité, en fait sur le mode de l'extension de l'analyse naturalisante, c'est-à-dire que l'agentivité humaine est une modalité de l'agentivité non humaine, puis un autre paradigme qui, symétriquement, montre que l'agentivité non humaine est encore une modalité de l'agentivité humaine parce qu'elle est encore analysable en fait dans les termes, on va dire, qui sont les termes de l'histoire environnementale, hein, au sens très très large de cette expression. Autrement dit, l'analyse des transformations intervenues dans l'histoire naturelle relève encore de l'histoire sociale. Alors, moi étant philosophe et chargé de poser les termes du débat, disons que je peux m'en tenir là, c'est-à-dire que je n'ai pas spécialement besoin, vous ne m'avez pas demandé de m'engager particulièrement sur ces débats-là. Mais juste un point avant de passer à la deuxième aspect de ce que je voulais dire. Je crois qu'on ne peut pas sortir de cette situation s'il ne propose pas, disons, une réforme au moins partielle du paradigme, alors, disons, socio-historique. J'ai rien à dire au niveau de la façon dont les géosciences produisent leur savoir, j'en suis pas du tout un praticien. Mais par contre, du côté des disciplines socio-historiques, je pense qu'on peut intervenir. Et d'ailleurs, je précise ce que je veux dire par là, en reprenant ce concept, par exemple, de capitalocène. Capitalocène, en fait, peu importe savoir qui l'a introduit dans le débat et pourquoi, etc. Mais l'une des grandes difficultés du concept de capitalocène, c'est qu'il peut nous laisser supposer qu'en substituant capital à anthropos, c'est-à-dire en substituant en fait une institution à une espèce, il laisse entendre que l'on dispose déjà avec le concept de capital et en fait plus largement avec le concept de capitalisme, la réponse aux défis à la fois épistémologiques et politiques posés par le changement climatique. Autrement dit, on recourt à un concept ou à, disons, une galaxie de concepts forgés dans le mouvement socialiste du 19e siècle, un analyseur de quelque chose que ce mouvement n'avait pas sous les yeux, et un analyseur qui, de toute évidence, mais rappelons-le quand même, n'a pas été fait pour analyser ce type de transformation-là. Donc, ce que je veux dire, c'est pas du tout qu'il faut laisser tomber capitalocène, parce que de toute façon, les mots ont toujours un usage beaucoup plus souple que leur sémantique, hein, évidemment. Mais j'attire l'attention simplement sur le fait qu'on a affaire à un décalage historique manifeste dans la formation même de ce concept, et que, à minima, si le concept de capital est de nature à rendre lisible le défi épistémologique et politique que constitue le changement climatique ou l'anthropocène, si vous voulez, alors ça doit passer par une réforme, je pense assez radicale, de ce qu'on entend par capital. Parce que ce soit dans sa formulation, disons, proudhonienne, ou marxiste, ou post-marxiste, il est absolument évident que le concept n'est pas fait pour capter ce genre de transformation-là. Je ne veux pas dire qu'il est incapable de le faire. Je veux dire qu'en l'état, il n'est pas fait pour ça. On pourrait d'ailleurs en dire de même du concept de plantationocène. Ça supposerait de revenir, je pense, il y a un coût épistémologique assez important à mon sens, si on suppose que, en fait, c'est à partir d'un problème de gestion foncière qu'on peut poser le problème des transformations écosystémiques planétaires. Aucun problème, pourquoi pas, mais en attendant, ça suppose une réforme, je pense, assez massive de ce qu'on entend par un système foncier, un système de propriété, en fait, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, la marchandisation de la terre. Je pense que ces transformations sont en cours dans le type d'analyse, par exemple, que vous venez de nous donner, mais je pense que ça suppose une stabilisation épistémologique, théorique, qui peut-être n'est pas encore complètement faite. Bon. Alors, deuxième point... Maintenant, deuxième point théorique, en fait, deuxième type de controverse enclenchée par l'introduction du concept de controverse, du concept, pardon, d'anthropocène dans les sciences sociales contemporaines. Cette fois, il renvoie moins, disons, à la rivalité épistémique entre naturalisation et dénaturalisation, mais plutôt à un contexte, là aussi, assez général, qui est celui des critiques émises contre l'universalisme moderne, c'est-à-dire contre la structure épistémologique et politique qui trouve ses racines dans les Lumières, les rationalismes du XVIIIe siècle. Et là, pour le coup, je pense qu'on est un petit peu plus proche du type d'enjeu théorique que vous venez de soulever à l'instant dans ce que vous nous avez expliqué. Alors d'abord, juste deux mots, je pense à des choses que vous savez, mais deux mots sur ce que j'entends par cette crise de l'universalisme, hein, faut quand même le rappeler. S'il y a des étudiants dans la salle, ça ne fait jamais de mal de remettre un peu les choses d'équerre, enfin, en supposant que je le fasse correctement. Alors, comme on sait, une partie du dispositif intellectuel, très largement, qui est celui des Lumières, de la Révolution française, et en fait de ce qu'en termes d'histoire des idées, on appelle le libéralisme politique classique, consiste à faire reposer l'autorité politique sur des énoncés de raison, consiste à édifier le droit, les normes qui articulent les rapports sociaux, sur la capacité de chacun à examiner, à partir de ces lumières rationnelles, le juste, le bon, l'égalité, la liberté. Ce rationalisme, cet universalisme des Lumières ou libéral, veut mettre fin au modèle traditionnaliste et religieux de l'Ancien Régime, c'est-à-dire un modèle fondé sur la reproduction généalogique des élites et sur l'autorité théologique ou théocratique associée à l'absolutisme monarchique. Alors, ce qui accompagne ce mouvement, évidemment, c'est l'idée que la rationalisation de la vie publique est un savoir-faire spécifique aux sociétés dites avancées, c'est-à-dire aux sociétés, en l'occurrence d'Europe occidentale, qui se considèrent comme étant à la pointe d'une histoire stadiale dont les stades antérieurs sont des stades qui se caractérisent par une rationalité moindre. C'est donc inclus dans ce discours en fait émancipateur de rationalisation des rapports sociaux. À l'intérieur de ça se trouve un discours sur l'avantage et l'autorité de l'Occident sur le reste du monde qui va s'exprimer dans la domination coloniale, impériale. C'est, disons, le paradoxe des Lumières qui a été soulevé par très très nombreux auteurs, évidemment, qui consiste à concevoir la modernité à la fois comme une exception historique, c'est-à-dire comme une singularité absolue dans l'histoire de l'humanité, qui en constitue le terme, et en même temps comme une exception qui a vocation à être universalisée, parce que cette exception correspond à l'établissement, tout simplement, d'une transparence de la raison, qui s'exprime à la fois dans les sciences naturelles et dans les sciences politiques, au sens très large, dans les arts de gouverner. Disons. Donc la modernité est à la fois une distinction radicale entre nous, modernes, et les autres, et en même temps, une destinée historique de l'humanité, dont l'expression conceptuelle centrale est le concept de droit de l'homme universel. Alors ce paradoxe a trouvé son expression, je crois, la plus spectaculaire, la plus frappante après la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'autodétermination des peuples correspond à la reconnaissance d'une majorité politique des régions non occidentales, non industrielles, mais une autodétermination qui ne pouvait prendre la forme que de la souveraineté étatique et du développement économique. Une génération plus tard, après ce moment, disons, de la décolonisation, les conséquences de ces paradoxes des Lumières explosent dans les sciences sociales suite à l'appropriation du discours universaliste par l'Empire américain au Vietnam, puis un petit peu plus tard en Irak, au Moyen-Orient. C'est-à-dire l'idée selon laquelle l'universalisme moderne est le berceau des droits a commencé à céder devant un contre-récit qui présente ce même universalisme comme un dispositif d'uniformisation des conduites et des arts de gouverner. La pensée des droits de l'homme a donc subi une critique radicale. Je crois que c'est une critique radicale qui ne vient pas d'ailleurs, qui n'est pas venue de l'extérieur d'elle-même. Ce n'est pas un coup de théâtre historique et épistémologique. C'est une critique qui exploite des tensions internes au discours de la modernité, qui était présente en fait depuis le début, et qui d'ailleurs était déjà mise sur le devant de la scène théorique et critique dès le XVIIIe siècle, si vous lisez les réactions, par exemple, des intellectuels indiens ou d'Amérique latine au mouvement colonial. Bon, jusque-là, je pense que vous connaissez. Alors maintenant, l'une des spécificités, disons, de ces aventures épistémologiques et politiques de l'universel ou de l'universalisme, en fait, ont un lien étroit avec la question des rapports collectifs à la nature. En effet, à l'intérieur de la distinction structurante entre nous et les autres, se cache, un petit peu moins théorisée dans les sciences sociales, une autre distinction ou une autre exception, qui, bien sûr, est l'exception que les modernes considèrent incarnée, c'est-à-dire l'exception de l'homme à l'égard de la nature. Pour le dire simplement, si les modernes sont si spéciaux, c'est pas seulement parce qu'ils incarnent l'universalité des droits, mais aussi parce que eux, contrairement à toutes les autres formations sociales historiques, ont gagné le combat contre la nature. C'est parce que les modernes sont capables de nier, de révoquer la fatalité de la providence naturelle, et de se construire des milieux artificiels qui témoignent de leur autonomie radicale à l'égard du monde extérieur. Ce discours-là est absolument central chez les Lumières, chez Condorcet, par exemple, si vous voulez Condorcet, probablement l'un de ceux qui l'exprime de la manière la plus nette. Vous le trouvez très bien explicité chez les premiers historiens du XIXe siècle, chez Michelet, par exemple. La marche de l'histoire est décrite chez Michelet par une conquête progressive de la nature, et les groupes sociaux qui n'ont pas fait, remporté la guerre contre le milieu, sont aussi ceux qui restent englués dans les déterminations du climat, du milieu, dans la fascination. Et c'est ce qui, encore une génération après, va se restructurer dans l'anthropologie victorienne sous la forme du concept d'animisme qui définit les sociétés incapables de se différencier des animaux, des phénomènes météorologiques, des plantes, etc. Bon. Autrement dit, la modernité, est structurellement définie par une double distinction, une double exception, entre nous et les autres, et entre des groupes qui sont autonomes parce qu'ils ont réussi à faire du milieu naturel une extériorité, et des groupes qui restent englués dans l'hétéronomie et la fatalité et la providence, parce qu'ils ne se distinguent pas de ce milieu. Donc cette modernité est à la fois une double distinction et une double universalisation, parce qu'elle cherche à universaliser, le schéma gouvernemental, libéral des droits, et le schéma, on peut dire, épistémopolitique de la distinction, du dualisme, la distinction entre société hétéronome et société autonome. On comprend bien, pour toutes ces raisons, que la remise en question de la domination de la nature et la remise en question de l'universalisme occidental par les critiques postcoloniales, en fait, devaient se rencontrer l'un l'autre, parce qu'ils procèdent chacun d'un même type de critique. Ils procèdent chacun d'une même mise en crise du discours standard de la modernité, qui est en fait, en tout cas dans les termes que j'utilise pour le décrire, plus une autocritique de la modernité qu'une critique qui viendrait réellement de l'extérieur. Par exemple, dans un des textes que vous avez cité tout à l'heure, il y a un exemple qui, à mon avis, est frappant de ce point de vue-là, c'était le passage d'Achille Mbembe. Inutile de le remettre, mais quand il donne une caractérisation théorique de ce qu'est le corps d'un esclave, en fait, il se fonde, plus ou moins explicitement, sur un concept d'essence parfaitement libéral, parfaitement un concept des Lumières, qui est celui de l'inaliénabilité d'un corps. Je ne veux pas du tout dire par là qu'Achille Mbembe reste, lui encore, englué dans le vieux libéralisme du 18e. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce concept d'inaliénabilité du corps, en fait, est beaucoup plus général que ce que le mouvement des Lumières a voulu dire, et qu'on peut le retrouver un petit peu partout dans des mouvements d'émancipation, y compris non modernes, c'est-à-dire non occidentaux. Et donc, on voit bien, en fait, comment c'est de l'intérieur du schéma de modernisation que sa mise en crise, ses limites, toutes ces épreuves sont apparues. Je pense que dans le passage que vous avez cité, on voit assez bien comment ça se manifeste. Et je connais très très mal le travail d'Achille Mbembe, donc je ne prêterai aucune valeur générale à ce que je dis là, mais en tout cas je l'ai vu là dans le passage cité. Bon. Autrement dit, la question environnementale ou écologique se lie à la question postcoloniale. Alors elle s'y lie évidemment sur un plan empirique, parce que les luttes anticoloniales et les luttes environnementales sont très souvent liées les unes aux autres empiriquement, mais elle se lie aussi sur le plan de la structuration épistémologique des discours, des analyses de sciences sociales au XXIe siècle. Et je crois là encore que les débats sur l'anthropocène reflètent cette crise épistémologique. La preuve, aujourd'hui, nous sommes invités par des chercheurs en études postcoloniales à réfléchir sur la signification, et en fait à inviter à critiquer la signification du concept d'anthropocène. Alors pour terminer, j'ai encore cinq minutes. Je peux m'arrêter là si vous voulez.
Non, mais on est en retard.
Oui, mais justement, c'est pas une raison pour en rajouter.
Non, mais si, le temps est élastique, donc on va, deux minutes, et puis on débat, on fait la pause en débattant peut-être.
Non, mais...
Non, allez-y, terminez.
Je veux pas...
Non, terminez vite.
Bon, je voulais juste, pour terminer, en fait, mais effectivement, je peux le dire très vite. Je pourrais le dire en une heure ou en deux minutes, je vais le dire en deux minutes. un peu comme je l'ai fait tout à l'heure sur Capitalocène, Plutationocène, je pense qu'on peut à la fois adhérer à l'enquête historique et critique qui consiste justement à se fonder sur cette convergence entre la critique postcoloniale et la critique environnementale. Je pense aussi que pour le faire, il ne faut pas négliger le type d'enjeu théorique, le type de défi théorique que ça pose. Juste formulé, sous la forme d'un problème ce défi-là. C'est assez simple, en fait. D'un côté, on pourrait résumer en fait, l'ambition épistémologique et politique de l'écologie politique par un slogan qui serait « Une autre nature est possible », c'est-à-dire il est non seulement possible mais nécessaire de récupérer des discours et des formes d'analyse qui sont en fait hétérogènes au standard de l'appropriation juridique et l'exploitation économique de la nature, c'est-à-dire en fait de faire intervenir des vivants, des espaces, des territoires, des milieux, sous une modalité qui ne se réduit pas au schéma on va dire de l'embarquement de la nature dans l'histoire de l'accumulation matérielle. Ça peut se faire de plein de manières différentes dans la critique des technosciences, évidemment, dans la remise en valeur des discours, vous l'avez dit là aussi tout à l'heure, des formes d'engagement dans la nature des sociétés anciennement colonisées qui sont des formes d'engagement qui sont en fait intraductibles dans le régime, disons, moderniste. Ça peut prendre la forme aussi d'une critique chez les anthropologues contemporains qui se dit ontologique, c'est-à-dire quand par exemple Villerose de Castro dit il y a dans le perspectivisme amazonien quelque chose de radicalement différent du schéma moderniste, et c'est ça qu'il faut aller récupérer pour faire droit justement à cette autre nature, qui d'ailleurs ne s'appelle même plus nature. Donc on a en fait, aujourd'hui dans les sciences sociales, ce qui est tout à fait fascinant d'ailleurs, ce qui est passionnant, en fait une explosion des voies empiriques, théoriques, historiques, consistant à faire droit à ces autres natures. Parfois, ces autres natures peuvent être d'ailleurs occidentales, mais pré-industrielles. Par exemple, le récit que donne Silvia Federici de la place des femmes dans les sciences et les techniques avant la modernisation techno-industrielle participe en fait de ce type de discours. Bon. Mais parallèlement, en fait, on assiste au mouvement en fait inverse. C'est-à-dire que notre capacité à exposer et à mettre en valeur les raisons de la crise écologique tient aussi, en bonne partie, à une connaissance approfondie de ce qu'a été la trajectoire historique de la modernité dans ce qu'elle a d'absolument spécifique, c'est ce que dit le concept de capitalocène, c'est-à-dire dans la capacité qu'elle a eue de devenir une force de transformation des équilibres éco-évolutifs planétaires. Ce n'est pas les Amazoniens, ce n'est pas les sociétés pré-industrielles qui ont fait ça. C'est nous, en quelque sorte, enfin, ce nous qui est le nous de la modernité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la construction théorique de la nouvelle rationalité de l'écologie politique, en fait, on a deux tendances qui veulent être solidaires l'une de l'autre et qui pourtant sont, disons, produisent un effet de dissonance ou de désajustement, c'est-à-dire d'un côté, allons chercher les autres natures. Hein, faisons le pas de côté ou le décentrement nécessaire pour récupérer ces discours qui sont soit extérieurs à la modernité, soit pré-modernes, soit peu importe. Et en même temps, un intérêt renouvelé, à la fois sur un plan politique et épistémologique, apparaît pour en fait, l'énigme que constitue cette modernisation techno-industrielle et le fait qu'elle ait en fait, une signification historique absolument, disons, sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, très souvent, en fait, Anthropocène et Capitalocène sont en fait la même chose. Donc, c'est ça, voilà, le point que je voulais souligner pour terminer. Pas du tout pour mettre des bâtons dans les roues, disons, à l'enquête sur la convergence entre la pensée postcoloniale et la pensée écologique. Au contraire, pour l'inciter disons, à prendre conscience de ce qu'il y a d'absolument non trivial, en fait, dans la mise en place théorique que ça suppose, et pour engager aussi une réflexion sur les moyens dont on dispose pour faire face à ce type de paradoxe théorique. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. Je sais pas, on avait applaudi tout à l'heure. Donc, moi, je suis absolument ravie. Bon, je connais bien tes travaux, Linda. Hein, je regrette que tu ne te permettes toujours pas l'expression du passage de la blanchitude à la vertitude pour le Costa Rica. Mais ça me paraît... moi, je suis ravie, alors contrairement à ce qui vient d'être dit, que des notions...
soit reprise, qui ne se relève absolument pas pour moi d'un anachronisme. C'est-à-dire quand vous parlez... bon, mais je vais revenir sur... que l'on reprend le capital du 19e siècle, on reprend la plantation avec son foncier, etc. Non, moi, je suis ravie parce qu'on est dans la construction, comme je vous l'ai dit, d'un paradigme dans ce groupe de travail et que l'on puisse, ce paradigme, en voir vraiment. Je trouve que, et c'est ça, j'en remercie énormément Linda d'avoir amené cette composante dans notre groupe, d'autant que moi, originellement, j'ai travaillé sur... les modes, les contre-propositions aux modes d'exploitation esclavagiste, qu'on pourrait appeler des résistances. Donc les modèles, ma thèse porte sur les modèles culturaux mis en pratique par les anciens esclaves et par les esclaves aussi dans l'ère des plantations. Et je suis ravie. Alors on a parlé de foyer originel et puis on s'est dit non, ça ne va pas. Matriciel, ça oui. Et c'est le mot matrice qui nous manque dans toute cette discussion, parce que c'est une matrice qu'on promène depuis la découverte du Nouveau Monde, quand c'est un peu la perspective de De Certeau aussi. Il se passe quelque chose de fondamental quand il y a la découverte du Nouveau Monde. On commence à écrire l'histoire, et on commence à écrire l'histoire sur le corps de l'autre, nous dit-il. Et surtout, il y a la naissance et la quelque chose qu'on va promener comme... Alors, je ne sais pas... j'ai en tête « Il faut défendre la société » de Foucault, avec ses longueurs temporelles, alors je ne sais plus comment il les appelle, si c'est là qu'il prend, dans « Il faut défendre la société », c'est des épistémés, j'ai plus en tête, là, moi je dirais des matrices qui, à un moment donné, vont être en rupture et bouleversées et avoir un nouveau mode de rapport de pouvoir. Moi, je pense qu'effectivement, on est toujours dans le mode matriciel. Peut-être que ça va changer avec l'arrivée, le changement d'épicentre, mais j'en suis pas sûre, avec la Chine, etc. Mais on est dans ce mode matriciel qui est mis en place, qui est un véritable laboratoire, qui va commencer à Madère avec, c'est pas un hasard, Colomb qui épouse la fille du premier gouverneur de Madère, et on met en place un laboratoire, et ce laboratoire, il fonctionne avec deux choses. Une modalité de domination de l'environnement et une modalité de domination des êtres qui n'était absolument pas existant auparavant et qui va bouleverser, qui amène un nouveau régime de relations humaines dont on a aujourd'hui donc les échos, plus que les échos, la transformation en type histoire immobile, c'est-à-dire ça change tout en étant les mêmes schèmes. Et là, je pense au travail d'un artiste, puisqu'on a un artiste parmi nous. Manque de peau, c'est terrible, je n'arrive pas à me rappeler son nom, je vais le chercher après, qui fait un travail remarquable en Belgique, et pour montrer comment l'histoire est aujourd'hui une histoire continue. Par exemple, il est belge, donc sur le Congo, la colonisation au Congo. Il a fait une pièce qui est assez remarquable, où il fait avec du coton, de la dentelle, une bombe atomique. Et il a aussi fait une bobine de fil énorme, immense, où il a enfilé 40 000 km de fil de coton pour montrer la circonférence de la Terre et qui symbolise tous les mouvements du monde qui se sont produits à partir de cette économie coloniale. Et je suis heureuse, moi, que l'on retrouve nos vieux théoriciens. Malm cite Marx au 19e siècle. Bah oui, Marx, il dit déjà qu'il y a quelque chose qui fait que l'équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie, c'est bouleversé. On retrouve notre Eric Williams de capitalisme, esclavage et capitalisme. Ben oui, et il y a quelque chose qui se passe, il y a un chaos, une rupture, un événement qui se passe à partir du 16e siècle et qui est encore en train de nous faire vivre les conséquences, c'est cette geste humaine qui contrôle tous les êtres et la nature. Et du coup, on est obligé, et je pense aux écrits de Malm, de récupérer quelque part ce qui est le plus important dans ces controverses. C'est vraiment de récupérer la dualité nature. C'est celle-là qui nous préoccupe. C'est penser, c'est tout le débat latourien là, qui nous met le bazar pour savoir où est la nature, où est l'humain, où est, si l'humain est une espèce parmi d'autres. Oui, effectivement, mais elle a le pouvoir de dominer. Et c'est ça qui, moi, me paraît être le plus important dans toutes les controverses. C'est celle qui est latourienne, qui est ignorante du pouvoir, qui est ignorante de la manière dont les êtres humains ont la capacité de créer un ordre mondial qui s'applique à toutes les autres espèces. Et peut-être que pour moi, il est là, le débat essentiel, mais je ne veux pas mobiliser trop la parole, parce que je pourrais... C'est ce qui m'a ennuyé un petit peu, c'est que vous parliez d'anachronisme avec des notions, la plantation, etc. La plantation est une matrice. Donc, on a un article très, très significatif, c'est celui de Loïc Vacan, qui montre comment les machines à fabriquer la race, et on pourrait dire les machines à fabriquer la nature, se répercutent d'époque en époque, depuis la plantation. C'est cette longévité matricielle qui est la plus importante pour moi. Alors je m'adresse à vous comme à tout le monde.
Est-ce que j'ai employé le terme anachronisme?
Non, mais vous avez dit... Non, vous ne l'avez pas employé.
Donc,
vous avez dit...
Employé, c'est parce que ce n'est pas ce que je pense.
Non, vous avez dit qu'on récupérait de vieilles notions du 19e siècle, oui. Et que c'était... Il y avait un hiatus, qu'on récupérait le capital, on récupérait la plantation.
C'était précisément pour ne pas dire anachronisme.
Bon, alors c'est bien.
Non, mais je vous explique pourquoi. Parce qu'anachronisme, ça veut dire... on se situe sur le plan du vrai et du faux. C'est une simple erreur. Je ne pense pas du tout que quand on dit capitalocène, c'est une erreur. Je pense juste que ça pose un problème particulier, que celui de la transformation d'un instrument épistémologique, d'un instrument d'analyse, qui a été conçu à un moment précis, dans un contexte précis, pour résoudre...
C'est pas l'anachronisme.
Non, pas du tout. Pour certains problèmes, et que ce concept-là subit des transformations, parce qu'après tout, il a été utilisé à la fin du 19e, au début du 20e, etc., etc. Il l'est encore aujourd'hui. Mais je crois que ça suppose qu'il soit au moins marginalement redéfini, pour inclure des types d'enjeux qui, malgré tout ce que peuvent montrer certains éco-marxistes, ne sont pas les enjeux auxquels Marx essayait de faire face. Je veux juste, en fait, réhistoriciser les concepts, simplement ça.
Comme Eric Williams, quand il parle d'esclavage et
capitalisme, je connais pas, désolé.
Néanmoins, c'est un auteur qui montre donc qui tout ce qui... alors là, ça va un peu à l'encontre, peut-être, des travaux de Marx, mais qui montre que C'est l'esclavage, c'est le monde des plantations, c'est les États-Unis, il ne faut pas oublier toute cette composante qui va impulser la révolution industrielle. Donc c'est antérieur au... je ne suis pas spécialiste moi, de l'environnement, le carbone, enfin je ne sais plus, le charbon, quel est le terme que tu emploies pour définir la période qui est... à la base de l'anthropocène, là, chez Malm. Voilà. Donc, ça précède. C'est la plantation qui l'impulse.
Enfin, c'est vrai que je pense effectivement que les concepts sont des constructions. Donc, il y a aussi une évolution, etc. Donc, moi, ça ne me choque pas, effectivement, qu'on parle de capitalocène. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Par contre, effectivement, parmi les acteurs, peut-être, de la modernité, il n'y a pas seulement les acteurs du capital, il y a aussi l'État. Moi, il y a une chose qui me paraît vraiment importante au XXe siècle, en particulier, même un petit peu avant, hein. C'est le versant soviétique, communiste, qui est aussi porteur... qui est un des porteurs de la modernité, quand même, parce qu'on a parlé du libéralisme du 19e, mais quand même, Marx et le mouvement socialiste, etc., sont d'autres porteurs de la modernité. Alors voilà, et le maillon central, effectivement, c'est le mouvement socialiste, marxiste, etc., etc. Et parler, enfin, on aura l'occasion tout à l'heure, de cet après-midi, peut-être d'en débattre, mais tout le versant soviétique de l'entrée dans l'anthropocène me paraît également important, qui est peut-être un petit peu impensé. C'est pas l'objectif de notre journée, puisque nous on veut plutôt effectivement le rabattre sur la question l'esclavage et du colonial. Mais voilà, je pense qu'on peut, évidemment, on pourrait continuer à débattre beaucoup de ça. L'autre élément, effectivement, quand vous avez fait cet rappel généalogique hein, le discours sur la modernité, etc. Bon, c'était bien aussi que Christine, tu reparles, enfin, tu fasses allusion, même de manière critique, à Latour, qui a tout un discours aussi là-dessus, hein, sur la modernité, etc., qui se positionne bien. Il me semble que Bembé, effectivement, c'est pas quelqu'un qui naît comme ça par hasard. C'est même plus compliqué, je pense, qu'une pensée postcoloniale, dont on sait aussi que c'est une galaxie. Hein. Moi, je me reconnais pas hein, dans le postcolonial ou certains aspects. Donc, je pense qu'on pourrait effectivement travailler peut-être au cours de la journée cette question des tensions intérieures dans des espaces qui ont été mis de force, effectivement. Subalternisé en quelque sorte hein, dans l'espace discursif épistémologique occidental assigné à une certaine position, mais il y a eu un retour, et pas seulement je dirais un retour en termes de résistance, donc ça Christine tu l'as beaucoup étudié, moi aussi d'une certaine manière dans le monde colonial en Afrique, mais aussi à un niveau presque épistémologique et de plus en plus hein. Et donc ce trouble épistémologique dont vous parlez, je pense qu'on pourrait aussi le voir sous un angle peut-être géophilosophique, ou je ne sais pas comment dire ça, ou une géopolitique de la pensée, à savoir que les interlocuteurs aujourd'hui, Christine parlait de la Chine, mais c'est plus uniquement effectivement l'ancien foyer matriciel de la pensée de la modernité, et je crois que c'est fondamental d'en parler, parce qu'avec la question de l'anthropocène, effectivement, se pose aussi dans un moment où il y a une émergence de pensée dans d'anciennes périphéries, on va dire d'une modernité qui a été fixée, dont les limites ont été fixées par l'Occident, mais qui a été lui-même complètement submergée. Hein, et donc je pense que dans le cours de la journée, peut-être, on pourra parler de cette dimension-là. Parce que dans ce que vous avez dit, qui m'a beaucoup intéressé, il y a aussi cette impensé. Hein, qui continue de s'exprimer. Donc il y a eu allusion à des penseurs indiens, etc. Mais je pense que voilà, ça s'est un peu plus universalisé. Et ça a peut-être brouillé un petit peu les schémas. En tout cas, ça les a complexifiés. C'est tout à fait intéressant, je pense. Hein. C'est une nouvelle donne.
Ce que je voulais dire quand je disais que j'étais quand même très ignorant de ces questions-là, c'est qu'effectivement, on peut avoir tendance à essentialiser un peu la pensée postcoloniale. Alors, vous avez forcément raison de dire que il y en a différentes modalités, probablement des tensions à l'intérieur de tout ça. Mais là, c'est à vous de m'apprendre des choses. Parce que
je vais donner la parole. On ne va pas la monopoliser. Là, nous, on est à fond dans le débat. Hein, mais oui, c'est un débat qui nous intéresse beaucoup. Donc, qui souhaite prendre... Oui, vous êtes obligé de parler dans le micro, sinon... Ah, ben voilà.
Oui, non. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement l'éléphant blanc dans le papier de Charbonnier, c'était Latour, Descola, c'était en fait cette vision d'une crise environnementale qui repose sur un problème conceptuel et philosophique qui serait la naissance de la modernité, sachant que cette la modernité, ça ne veut rien dire du tout. Et je trouve qu'un des aspects intéressants, justement, alors c'est pas l'anthropocène du tout, mais en fait c'est la crise environnementale en général, ça nous a forcé un peu à réfléchir à ce que ça voulait dire la modernité, est-ce qu'elle avait été si univoque que ça dans son rapport avec l'environnement et les non-humains. Et en fait, à côté de Michelet, on trouve des tonnes d'auteurs qui sont beaucoup plus ambigus, qui se posent plein de questions sur c'est quoi la communauté intéressante. Voilà, donc Michelet, pour le resituer, c'était le... Par exemple, dans La Mer, il écrit qu'il y a tellement, les morues se reproduisent tellement vite qu'il y en a à volonté. Et heureusement qu'on les pêche, sinon on pourrait marcher à pied sec à travers l'Atlantique. Enfin, il a des délires cornucopiens absolument hallucinants. Donc c'est quelqu'un d'assez pathologique, j'irais, dans cette vision de la modernité. Donc on ne peut pas le prendre comme la modernité. Donc ça, c'est, je pense, le premier point intéressant sur ce que peut faire, mais pas encore, enfin l'anthropocène peut-être pas, mais en tout cas la question de la crise environnementale d'un point de vue de l'histoire des idées. Le deuxième point que je voulais dire, c'était que cette affaire d'anthropocène, moi, il me semble qu'il y a un truc hyper important que ça fait sur les sciences sociales et que t'as pas pointé, c'est que ça nous oblige à prendre en compte la matière. S'il y avait un truc frappant quand même dans cette affaire d'anthropocène, c'est la série de graphes que Will Steffen a produit avant même de parler d'anthropocène, on va dire, mais qui a été recyclé dans des papiers sur l'anthropocène. On voit tout un tas de courbes absolument affolantes et qui s'affolent souvent dans les années 50. Et ce qui est frappant, c'est que l'histoire est n'avait pas vraiment pris à bras-le-corps cette question, à mon avis, de la quantité. On a des tonnes de concepts historiques et de traditions historiographiques longuement établies, et Eric Williams est important. Je pense aux travaux de Joseph Inikori ensuite sur l'homme africain et la révolution industrielle, qui fait des connexions tout à fait pertinentes entre l'esclavage, la plantation coloniale, le commerce transatlantique, en fait, fondamentalement, et la révolution industrielle. Donc ça, c'est déjà bien connu, bien avant Plantacio-Sen et tout ce blabla. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est vraiment fondamental dans l'historiographie, qui devrait être très connu. Il s'avère que la question de l'anthropocène et tous les dérivés en scène donnent un peu plus de visibilité à ce genre d'historiographie qui était marginalisé. Mais alors, je trouve que l'intérêt, quand même, de se confronter aux textes des sciences dures, c'est qu'eux, ils ont une attention rigoureuse sur les quantités matérielles. C'est pour ça que la question du marqueur géologique, etc., on peut dire on s'en fiche, c'est des affaires de géologues, c'est pas vrai en fait. Je pense que c'est un stimulant pour les sciences humaines et sociales, et pour l'histoire en particulier, de tester un peu nos grands schémas historiographiques du genre Eric Williams, Joseph Inikori, et les confronter à des quantités matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'économie de plantation en termes d'évolution du système Terre? C'est ce genre de questions, je trouve, que ça nous oblige à poser. Et ça... pour moi, c'est vraiment un point de rencontre fertile entre les sciences humaines et l'anthropocène. Et alors, c'est pour ça, et je suis d'accord avec la réaction un peu courroucée de je ne sais pas qui c'est en fait, de Christine. Je suis assez d'accord avec cette réaction un peu courroucée. Je trouve que l'intérêt de cette notion d'anthropocène, c'est ses défauts en fait. C'est tellement mauvais comme nom pour désigner la crise environnementale que ça nous oblige à réfléchir très sérieusement à c'est quoi le vrai récit de la crise environnementale. Et c'est vrai que la façon dont Latour avait traité ça dans Nous n'avons jamais été modernes était extraordinairement légère, où finalement la crise environnementale c'était le résultat de la modernité, de Boyle qui invente la méthode expérimentale et qui sépare nature et politique, et à partir de là, en gros, on rentre dans un délire naturaliste et productiviste. En fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. C'est un récit qui est beaucoup trop philosophique et idéaliste de la crise environnementale. Et voilà, je trouve que l'intérêt un peu des sciences dures dans cette affaire et des sciences du système Terre, c'est un peu nous obliger à réfléchir de manière plus rigoureuse et en grande partie quantitative, j'insiste sur ce point, sur ces questions-là.
Il faut que je réponde ?
Non.
Non, mais je peux. Hein.
Mais oui,
débattez. Non, mais alors... Que la modernité ne soit pas tout à fait ce que les grands récits en ont dépeint, ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord.
Tu l'emploies encore, la modernité, tu parles de la modernité et Michelet dans la même phrase, c'est quand même sinon quand tu
réfléchis. Non, mais attends. C'est-à-dire que faut faire droit à plusieurs types de questionnements, quand même. Si on essaye de rassembler un peu ce qu'on sait pour mettre un petit peu d'ordre dans les catégories qu'on utilise, parmi lesquels la catégorie de modernité, on est bien obligé de faire ressortir, ça a toujours un prix, hein, c'est un prix empirique, mais des bords un petit peu nets. Mais par exemple, en fait, ça m'étonne, parce que en fait, tu me fais toujours un peu de la même objection, mais du coup, je te fais toujours la même réponse, mais si on lit l'œuvre historique de Jean-Baptiste Fressoz, on comprend qu'un des mécanismes importants que tu as mis en lumière, c'est des inhibitions. Donc, on voit le risque, et on passe par-dessus, parce qu'il y a des sortes de mécanismes réflexifs en fait, qui sont constitutifs de l'industrialisation, qui permettent non pas de faire comme s'il n'y avait pas de risque, de les voir et de passer par-dessus. Je pense que désinhibition, typiquement, c'est un instrument majeur dans la constitution du discours sur la différence entre les sociétés autonomes et les sociétés hétéronomes. Alors, c'est effectivement un petit peu plus complexe que le grand récit du dualisme, etc. Mais je fais parfaitement mien ce type de réflexion. Et de la même manière, on trouve aussi dans tes travaux, en l'occurrence dans vos travaux avec Christophe, la réflexion sur Capitalocène, qui est une manière, comme je disais tout à l'heure, en fait, de réinvestir, désolé, hein, mais des concepts du 19e siècle dans l'analyse du présent. Donc, à mon avis, je suis tout à fait désireux en fait, d'en savoir plus sur ce que la modernité pouvait avoir de pluriel, d'intrinsèquement contesté, et donc effectivement que modernité, ça colle pas, enfin, si écoute bien ce que je viens de dire, tout ça voulait dire que par exemple, modernité, enfin, il était toujours entre guillemets, c'est le discours que certaines sociétés tiennent sur elles-mêmes, et qui précisément avec les crises environnementales, en fait au-delà de ça, les grandes asymétries économiques et territoriales contemporaines, en fait, se dérobent entre nos doigts. Je pense que là-dessus, on est absolument d'accord. Je pense juste qu'il faut quand même prendre au sérieux le fait qu'à certains moments de l'histoire, certaines sociétés se sont qualifiées à travers certains concepts qu'elles ont justifié les relations qu'elles entretenaient avec les autres sociétés et avec le monde à partir de ce dispositif d'auto-justification qui, si tu veux l'appeler autrement que modernité, moi je veux bien, mais il faut me proposer autre chose. Et précisément, je crois que l'histoire environnementale, l'histoire des sciences, l'histoire des techniques, dans ces versions effectivement un petit peu moins schématiques que ce que Latour ou Descola peuvent faire, alimente en fait cette réflexion-là. Donc, je suis tout à fait prêt à... Enfin, tu vois, bizarrement, tu me présentes comme objection quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout une objection, mais est, en fait, j'espère incorporer du mieux que je peux, en fait, dans une reprise qui, effectivement, est empiriquement très pauvre, parce que moi, j'essaye de faire ressortir des bords un peu plus nets. Enfin, on est toujours un peu dans cette même oscillation. Hein. C'est-à-dire qu'un philosophe pourrait toujours objecter à un historien, d'accord, mais si la modernité, en fait, c'était... elle-même est autre chose, et c'est un truc complètement pluriel, et on ne peut pas du tout en donner un compte-rendu synthétique, on ne comprend plus rien. Donc, je pense qu'aucune des deux asymptotes n'est bonne. Hein. Faut situer une sorte de grain moyen de l'analyse. Donc voilà. Après, sur le deuxième point, je suis parfaitement d'accord, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est central.
Ouais, moi j'ai envie de rajouter quelque chose quand même. Je crois qu'on est en train de confondre plusieurs choses, deux concepts. Ce que l'on pourrait appeler des faits, dans une approche qui aurait fouillé la notion de fait type approche ricœurienne, sachant que, ou même de Certeau à nouveau, puisqu'on peut pas, le passé est tout de suite révolu, hein, c'est l'éternel absent, donc personne n'a la possibilité de résoudre la porie du passé. Mais je crois qu'on est dans le débat, on confond les deux choses. Et il me semble que...
Quelles sont ces deux choses ?
Les faits et les concepts. Des faits et des concepts. Donc que le capital soit un concept, bon, ok, mais moi je parle des choses que désigner la notion de capital et que ça, c'est, en tant que toujours cette matrice originelle qui se promène, qui continue, qui est réactualisée, qui fait appel à des mécanismes, et c'est les temporalités foucauldiennes, hein, c'est pour ça que je tiens vraiment à reprendre Foucault. Ce sont des temporalités longues.
Foucault n'aurait pas accepté la distinction que vous faites entre les faits et les concepts.
Peut-être, peut-être, mais peut-être qu'il n'aurait pas accepté ça. Mais moi, ce que j'accepte de lui, c'est ces temporalités longues, hein, qui sont extraordinairement longues et dont on a là... c'est pas parce que le concept d'anthropocène nous arrive qu'on doit ignorer cette temporalité. Et vous voyez, là encore, on est en train de mélanger là, cette chose que désignerait l'anthropocène et puis cette historicité donc de phénomènes qui sont vraiment datés, qui se sédimentent avec une surpuissance. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi qui prend le relais de ça. Et est-ce que, je pense à la Chine toujours, moi, mon obsession, et est-ce que c'est avec les mêmes, est-ce que c'est ces concepts qui ont essaimé et qui sont des rapports de force qui ont fait changer l'épicentre, en fait, mais avec les concepts repris, enfin les concepts, plutôt les modes ontologiques, on pourrait dire. Voilà. Mais c'est vrai que j'insiste, moi, pour ma part, mais je ne sais pas si je ne suis pas spécialiste de la question, mais je pense que le débat, il est quand même assez parasité par nos deux auteurs fétiches, que sont Descola et Latour. Il est parasité parce qu'il ne parle absolument pas de relations de pouvoir, ni l'un ni l'autre. Si l'autre, il va parler des relations de pouvoir, avec, mais pas là où elle se trouve, en fait. Il a un vague, Latour, hein, je parle, il a une vague allusion sur la sous-humanité, dans « nous n'avons jamais été modernes », et tout de suite pour s'en prendre à Lévi-Strauss, et ça fait dévier le débat, et on sait pas. Et Descola, c'est pareil, c'est des modes ontologiques, où il est dans le glossaire de, je ne sais plus comment c'est le titre, le fameux bouquin, là, le gros, le pavé, là, la nature, là, non, comment ça, voilà. Donc, il faut simplement, le glossaire nous le dit. Il y a ni colonisation, ni. Or, c'est quand même ce que je ne comprends pas. Je ne suis pas une militante de par mes sujets de recherche. Ce sont mes sujets de recherche qui ont fini par me convaincre et les auteurs et les penseurs de la Caraïbe. C'est les penseurs de la Caraïbe. C'est pour ça que la décolonisation des savoirs, qui est un mouvement très important, je me suis trouvé dire à des Bimbés et compagnie, mais si vous voulez décoloniser les savoirs, vous enlevez la part que vous avez amenée vous-même dans cette constitution des savoirs. Donc que, effectivement, il se passe quelque chose d'extrêmement important avec le choc de la rencontre qui se passe donc aux Amériques. Et là, je renvoie aussi à Grusinski, etc. Et on me fait signe de me taire.
Non, peut-être juste par rapport aux deux points que vous avez évoqués, donc sur naturalisation, historicisation, et peut-être une lacune de cette journée, c'est finalement l'absence aussi de scientifiques issus, enfin, des sciences de la Terre, disons. Et je dois... Enfin, voilà, on avait... penser à inviter un chercheur qui s'appelle Andrew Friedman, qui est océanographe, qui travaille sur les sciences du climat et qui avait commencé une revue de littérature. Et ça recoupe ce que disait Jean-Baptiste, c'est ça, Jean-Baptiste Fresseau, sur finalement la contribution aussi des scientifiques. Vous voyez, là, vous avez un exemple où il avait commencé sa revue de littérature, mais là, effectivement, on a des travaux et ça nous permettait d'avoir un contre-regard, hein, et de ne pas être entouré de, finalement, entre chercheurs issus des humanités, mais qui, et les travaux sont pléthores, existent effectivement, et je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi cette perspective depuis les sciences et de voir effectivement les contributions pour cette question qui est la nôtre dans la Caraïbe. Et autre point sur la crise du paradigme universaliste. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir totalement compris le paradoxe que vous souleviez à la toute fin. Cette idée de l'explosion des voix. Alors, cette question de l'explosion des voix sur ces autres formes d'engagement de la nature qui prennent le tournant ontologique ou qui s'inscrivent sur la pré-modernité. Mais ce qui est intéressant dans l'Atlantique noir, tel que l'a pensé Gilroy, avec cette idée vraiment de pluralité, de circulation, je parlais des multiples registres d'identification, c'est que, alors on est au cœur finalement de la modernité, même si Jean-Baptiste, voilà, on est au cœur de cet espace-là, marqué par les circulations, et on ne prend pas le tournant ontologique. Bon, il va y avoir les travaux d'Escobar qui vont parler d'ontologie noire, par exemple, mais là voilà, on est dans cette littéralité diasporique. Et là, ça devient intéressant de voir ces contre...
C'est probablement une des manières les plus intéressantes de sortir du paradoxe que je soulevais. Oui. Tout à fait.